Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en français en 2025 par Guy Trédaniel, éditeur. Le mythe de la normalité est un essai de santé, de psychologie sociale et de réflexion clinique signé par le médecin Gabor Maté avec Daniel Maté. Son sous-titre, Le traumatisme, la maladie et la guérison dans une culture toxique, indique l'ampleur de son projet. Les auteurs contestent une vision de la santé qui isolerait les symptômes physiques ou psychiques de l'histoire affective des personnes, de leurs relations et des contraintes sociales. À partir de l'expérience médicale de Gabor Maté, d'exemples cliniques et d'une lecture critique de la recherche, le livre examine les liens possibles entre stress durable, traumatisme, addiction, maladie chronique et perte de contact avec ses besoins fondamentaux. Il ne propose pas de réduire toute maladie à une seule cause psychologique. Il invite plutôt à considérer la santé dans un cadre biopsychosocial plus vaste. L'objectif est de rendre visible ce que les normes contemporaines de performance, d'adaptation et de conformité peuvent coûter aux individus. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la normalité sociale comme critère trompeur de santé. Le point de départ du livre est une distinction décisive entre ce qui est fréquent et ce qui est sain. Dans une société où l'épuisement, la pression professionnelle, l'isolement, l'anxiété et la consommation compensatoire sont répandues, leur banalité peut les faire paraître normaux. Gabor et Daniel Maté soutiennent que cette normalisation masque les effets délétères de conditions de vie qui exigent une adaptation permanente. La question n'est donc pas seulement de savoir pourquoi une personne souffre, mais aussi pourquoi certaines formes de souffrance sont collectivement tolérées ou invisibilisées. Cette approche déplace le regard clinique. Au lieu de concevoir le symptôme comme un défaut individuel à corriger, elle demande dans quel environnement il est apparu et quelle fonction d'adaptation il a pu remplir. Le livre critique ainsi les explications exclusivement centrées sur la biologie, les comportements individuels ou la responsabilité personnelle. Il ne nie pas l'utilité des soins médicaux ni la réalité des prédispositions biologiques, mais conteste leur isolement du contexte social. Cette critique de la normalité a une portée politique autant que thérapeutique. Elle conduit à interroger les institutions, le travail, les inégalités et les modèles éducatifs qui façonnent durablement les corps et les psychismes. La santé devient alors une question relationnelle et culturelle, non un simple état privé. Deuxièmement, le traumatisme défini par ses effets durables sur la personne. Le livre traite le traumatisme moins comme la seule liste d'événements objectivement extrêmes que comme une blessure durable affectant le rapport à soi, aux autres et au monde. Cette nuance permet de comprendre pourquoi des expériences parfois ordinaires en apparence, telles que l'insécurité affective, le rejet, l'humiliation ou l'absence de soutien émotionnel peuvent laisser des traces importantes, surtout lorsqu'elles surviennent tôt et se répètent. Les auteurs insistent sur l'écart entre ce qui arrive et les ressources disponibles pour y faire face. Un enfant dépendant de ses adultes ne peut pas facilement échapper à un climat relationnel menaçant ou invalidant. Il peut alors apprendre à se couper de certains ressentis, à s'hyper-adapter ou à privilégier la sécurité du lien au détriment de son authenticité. Pour Maté, ces réponses ne sont pas des fautes de caractère, mais des stratégies de survie. Elles peuvent néanmoins persister à l'âge adulte, influencer les relations, le stress et les conduites de soulagement. Cette conception évite d'opposer artificiellement les personnes gravement traumatisées aux autres. Elle appelle aussi à la prudence, reconnaître des déterminants développementaux ne revient pas à transformer toute difficulté en diagnostic ni à attribuer une causalité certaine à un événement isolé. L'enjeu analytique est de restituer l'histoire, les besoins et les adaptations derrière les symptômes. Troisièmement, le corps. Le stress chronique et les limites d'une causalité simpliste. L'une des thèses centrales de Gabor Maté est que la séparation nette entre santé mentale et santé physique est souvent insuffisante. Le livre examine comment le stress prolongé, la répression émotionnelle, la solitude ou l'absence de contrôle peuvent peser sur les systèmes de régulation de l'organisme. Cette perspective s'inscrit dans une approche qui prend au sérieux les interactions entre système nerveux, immunité, comportement de santé et environnement relationnel. Elle aide à comprendre pourquoi une maladie chronique ne se résume pas toujours à un organe défaillant, et pourquoi un traitement exclusivement technique peut laisser de côté des facteurs importants de qualité de vie. Toutefois, l'argument du livre doit être lu sans déterminisme. Les expériences difficiles ne rendent pas automatiquement malade, et les maladies physiques ne constituent pas la preuve d'un traumatisme non résolu. Les causes sont multiples, incluant la génétique, les infections, les expositions environnementales, l'accès aux soins et le hasard biologique. La contribution spécifique de Maté consiste à demander que l'histoire vécue soit intégrée à l'évaluation plutôt qu'écartée comme secondaire. Cette position peut enrichir le dialogue entre patients et soignants en donnant une place aux conditions de vie concrètes. Elle ne remplace ni le diagnostic médical, ni les traitements fondés sur des preuves, mais plaide pour une pratique moins fragmentée et plus attentive au contexte. Quatrièmement, l'authenticité confrontée aux besoins d'attachement. Le livre organise une grande partie de son analyse autour d'une tension du développement humain, le besoin d'attachement et le besoin d'authenticité. L'attachement désigne la nécessité vitale, particulièrement dans l'enfance, de maintenir une relation protectrice avec les adultes dont on dépend. L'authenticité renvoie à la capacité de reconnaître et d'exprimer ses émotions, ses limites, ses besoins et ses préférences réelles. Dans des milieux où certaines émotions sont mal accueillies ou où l'amour semble conditionnel, l'enfant peut sacrifier une part de son expression spontanée afin de préserver le lien. Plus tard, cette adaptation peut prendre la forme du perfectionnisme, de la docilité, de l'évitement du conflit ou de la difficulté à dire non. Maté ne présente pas ses traits comme de simples défauts individuels. Il les relie à une logique initialement protectrice, devenue parfois coûteuse lorsque les circonstances ont changé. L'intérêt de ce cadre est pratique, il permet de déplacer la honte vers la compréhension. Il incite à observer les situations où une personne ignore ses limites pour répondre aux attentes familiales, professionnelles ou sociales. Il évite aussi une version individualiste de l'authenticité. Retrouver sa voix ne signifie pas rejeter toute relation ou toute responsabilité, mais développer des liens dans lesquels la sécurité ne dépend pas du renoncement systématique à soi-même. En dernier lieu, la guérison comme reconquête de la conscience, du lien et du choix dans le mythe de la normalité. La guérison n'est pas décrite comme une promesse de disparition universelle des symptômes, ni comme un exercice de pensée positive. Elle correspond davantage à un processus de reconnexion, reconnaître son histoire, identifier ses mécanismes d'adaptation, ressentir avec davantage de sécurité et retrouver une marge de choix dans ses relations. Les auteurs accordent une importance particulière à la compassion envers soi, car l'auto-accusation entretient souvent les stratégies de défense qu'une personne cherche précisément à comprendre. Cette orientation peut inclure une psychothérapie appropriée, des relations soutenantes, l'exploration des limites personnelles et une attention plus cohérente aux besoins du corps. Le livre souligne également que la guérison ne peut être entièrement individualisée. Une personne peut gagner en conscience tout en continuant à vivre dans des conditions économiques, familiales ou professionnelles éprouvantes. Les transformations collectives, telles qu'un travail plus protecteur, des soins accessibles, un soutien réel aux familles et des communautés moins isolantes, font donc partie du problème comme des pistes de réponse. Cette articulation entre chemin personnel et critique sociale distingue l'ouvrage des manuels de développement personnel centrés uniquement sur l'effort individuel. Elle rappelle aussi une limite utile : aucun récit de guérison ne doit devenir une injonction. Le progrès peut être partiel, non linéaire et compatible avec la nécessité de poursuivre des soins médicaux ou psychologiques. En conclusion, le mythe de la normalité s'adresse d'abord au lecteur qui souhaite comprendre la santé au-delà de l'opposition habituelle entre le corps et l'esprit. Il intéressera les personnes concernées par le stress chronique, l'épuisement, les difficultés relationnelles, les addictions ou la maladie, à condition de le lire comme un cadre de réflexion et non comme un outil d'autodiagnostic. Les proches, les professionnels de l'accompagnement, les soignants et les lecteurs attentifs aux effets sociaux des inégalités y trouveront également une synthèse stimulante sur les liens entre développement, relations et santé. Son bénéfice intellectuel principal est de rendre les symptômes plus intelligibles en les replaçant dans une biographie et dans une culture. Son bénéfice pratique réside dans les questions qui l'aident à formuler quels besoins ont été négligés, quelles limites sont difficiles à poser, quelles conditions de vie entretiennent le stress et quels soutiens sont réellement disponibles. Par rapport aux ouvrages de psychologie populaire, le livre se distingue par l'ampleur de son ambition. Il relie clinique, traumatisme, médecine, éducation et critique sociale, plutôt que de proposer une méthode isolée de mieux-être. Cette force constitue aussi une exigence. Certaines affirmations générales sur les liens entre vécu et maladie demandent une lecture nuancée, respectueuse de la complexité scientifique et de la pluralité des causes médicales. Lu dans cet esprit, l'ouvrage offre un contrepoint substantiel aux discours qui réduisent la souffrance à une fragilité personnelle ou à une anomalie purement biologique. Si vous souhaitez soutenir Gabor Maté, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.